Merci d'écouter Inter, il est 8h. Et c'est le journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. L'armée turque est entrée dans le nord de la Syrie cette nuit, offensive contre les Kurdes, contre des terroristes. Selon Ankara, nous serons en Turquie et à Washington, où Donald Trump a eu des mots très étranges sur les Kurdes, alliés décisifs de la coalition contre Daesh. La surprise en Tunisie, à deux jours du second tour de la présidentielle, Nabil Karoui est libre. Il va enfin pouvoir faire campagne, mais dans un temps très réduit. À la une, également l'audition de Sylvie Goulard à Bruxelles. Est-ce que ça passera cette fois pour la Française choisie par Emmanuel Macron? La situation commence à être embarrassante. Les agriculteurs chez leur ministre pour faire un point une semaine après l'incendie de Lubrizol. 800 000 Californiens du Nord sans électricité. C'est volontaire, c'est pour éviter un incendie et un voyage encore plus lointain raconté par votre invité à 8h20.
Oui, il s'agit de l'écrivain Sylvain Tesson qui est parti avec le photographe Vincent Munier à la poursuite de la panthère des neiges. Ils sont les invités du grand entretien. Appelez-nous dès maintenant 01 45 24 7000.
Et puis au Japon, la France n'affrontera pas l'Angleterre samedi, les derniers matchs de poule annulés en Coupe du monde de rugby pour cause de typhon.
France Inter.
D'abord les bombes de l'aviation et les tirs d'artillerie, puis les militaires qui passent la frontière. L'opération Source de paix, lancée hier par la Turquie, est entrée dans sa phase terrestre. Elle vise clairement les combattants kurdes, vainqueurs de Daesh. Bonjour Anand Lauer, vous êtes à Istanbul pour France Inter.
Bonjour Florence.
Anne, il aura fallu attendre minuit hier soir pour voir un officiel turc s'exprimer et justifier cette offensive unanimement condamnée à l'étranger.
Oui, en effet, tard dans la soirée, sur la chaîne CNN turque, le ministre Süleyman Soylu a rappelé l'objectif premier de cette opération, créer dans le nord de la Syrie une zone dite de sécurité, qui pourrait s'étendre à terme sur plusieurs centaines de kilomètres de long. Aux yeux d'Ankara, cette zone tampon permettrait d'abord d'éloigner de la frontière les combattants kurdes et de briser leur rêve d'autonomie, voire d'indépendance en Syrie. On écoute Süleyman Soylu.
Nous n'avions vraiment pas le choix. Si nous n'étions pas intervenus, si nous leur avions laissé le contrôle des territoires, nous aurions laissé à nos enfants et aux générations suivantes un État terroriste.
Le terrorisme, c'est le terme historique des Turcs pour qualifier les Kurdes. Ils ouvrent donc un nouveau front dans cette guerre qui a commencé il y a 8 ans maintenant en Syrie. Que sait-on des opérations sur le terrain ce matin, Anne?
Eh bien, après plus de 6 heures de bombardements intensifs hier après-midi, tirs d'obus depuis la frontière, raids aériens sur une profondeur de 30 km en territoire syrien, frappant au total plus de 200 cibles, l'armée turque a pénétré en Syrie en fin de soirée. Ses forces utilisent 3 points d'entrée le long d'une bande de 120 km de long, séparant les localités de Tal Abyad et de Ras Al Ain, et elles affirment avoir cassé les premières lignes de défense des combattants kurdes.
Anand Lauer, merci Anand Lauer à Istanbul pour France Inter. Cette offensive prévisible des Turcs est depuis hier condamnée par la communauté internationale, excepté à Moscou, où Vladimir Poutine avait tout de même demandé à son homologue turc de bien réfléchir avant d'intervenir. À la demande de l'Europe, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunira dans la journée. Aux États-Unis, 2 sénateurs, un républicain et un démocrate, proposent des sanctions financières colossales contre la Turquie si elle ne retire pas ses troupes de Syrie. Ils accusent Donald Trump d'avoir honteusement abandonné les Kurdes. Trump, plus ambigu que jamais sur ses alliés dans la guerre contre Daesh. Grégory Phillips, le président, pour justifier sa passivité, brandit un curieux argument historique.
Dans la Roosevelt Room de la Maison-Blanche, Donald Trump prévient à nouveau le président Erdogan. J'anéantirai son économie si l'opération se passe mal. J'espère qu'il agira de manière rationnelle. Puis les reporters pressent Trump de questions sur les Kurdes, ses alliés abandonnés aux mains des Turcs. Et le 45e président des États-Unis a cette étrange réponse, visiblement inspirée d'un article qu'il a lu quelques heures plus tôt sur le site conservateur Town Hall. Les Kurdes ne nous ont pas aidés pendant la Seconde Guerre mondiale, pas aidés en Normandie par exemple. Et nous, on a dépensé énormément d'argent pour eux en termes d'armement, de munitions. Ceci étant dit, nous aimons beaucoup les Kurdes. En vérité, personne ne comprend vraiment ce que veut dire le président américain. Alors un journaliste le relance sur les djihadistes prisonniers et sur ce qu'ils risquent de devenir au cœur de cette bataille. Eh bien, ils vont s'échapper vers l'Europe, c'est là où ils veulent retourner, chez eux. Avec un Donald Trump fluctuant sur cette question kurde, le Congrès américain, lui, est pressé d'agir. Des sénateurs, démocrates et républicains, ensemble, ont menacé hier Ankara de sanctions financières infernale si les troupes turques ne se retiraient pas immédiatement de Syrie. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et pour continuer à nous éclairer sur cette offensive turque, c'est Pierre Aski qui officiera juste après ce journal. En Allemagne, Angela Merkel s'est rendue devant la principale synagogue de Berlin hier soir où se tenait une veillée silencieuse après l'attaque de Halle. Un homme là-bas s'en est pris à une synagogue et à un restaurant turc. Il a tué deux personnes, en a blessé deux autres. Il a tout filmé avant de se faire arrêter. 35 minutes de vidéos diffusées en direct sur la plateforme Twitch, dans lesquelles on le voit et on l'entend tenir des propos antisémites et négationnistes.
Il est 8h06. Qui sera élu président en Tunisie dimanche?
À deux jours du second tour, l'homme d'affaires Nabil Karoui, emprisonné depuis le mois d'août, est libre depuis hier soir. Lui, qui est arrivé deuxième du premier tour, a été accueilli en héros à sa sortie de prison et par ses partisans à Tunis. Reportage signé Maureen Mercier.
Ambiance de match de football devant le QG de Nabil Karoui.
Vive le droit !
Vive le droit ! Pour ses partisans, c'est la fin d'une injustice. Pour eux, Nabil Karoui était un prisonnier politique. Nabil Karoui est certes libéré, mais toujours inculpé pour fraude et blanchiment d'argent.
Pourquoi vous le soutenez ?
Pour sauver la Tunisie.
Les femmes de la Tunisie sont très solidaires avec Nabil Karoui.
Ici, ces femmes en sont persuadées, c'est l'homme qui pourra contrer les islamistes, notamment du parti Ennahda, qui viennent de remporter le plus grand nombre de sièges aux élections législatives. Il reste deux jours de campagne électorale. Les partisans de Nabil Karoui espèrent qu'il pourra encore renverser la tendance. Les sondages officieux donnent son adversaire vainqueur. Ils espèrent que les deux candidats pourront s'affronter dans un débat télévisé et que la verve de l'homme d'affaires puisse l'emporter sur l'austérité du juriste Kais Saïd. À quelques pas, ce chauffeur de taxi votera, mais pour écarter Nabil Karoui. Il rappelle qu'avant même son arrestation, les adversaires de Nabil Karoui le surnommaient déjà le Berlusconi tunisien.
La même mafia.
Qui, du mania des médias ou de Kais Saïd, l'austère constitutionnaliste, deviendra président ? Verdict dimanche. Tunis, Maureen Mercier, France Inter.
Alors, en sachant qu'aucun des deux hommes n'est en mesure de former un gouvernement, puisque ce sont les islamistes d'Ennahda, Maureen Mercier vient de le dire, qui ont remporté les législatives dimanche dernier. Ça a été confirmé cette nuit. Toujours la contestation à Quito, la capitale de l'Équateur, envahie par des dizaines de milliers de manifestants hier. Ils protestent contre la hausse massive du prix de l'essence. Elle a plus que doublé. Et comme la veille, il y a eu des affrontements avec les forces de l'ordre.
8h08, et c'est un peu le rattrapage du rattrapage pour Sylvie Goulard à Bruxelles.
La Française nommée commissaire au marché intérieur n'a toujours pas réussi l'épreuve du Parlement. Après un oral la semaine dernière, un écrit en début de semaine, la voilà reconvoquée ce matin pour une seconde audition. Les eurodéputés veulent dissiper tous les doutes sur son intégrité alors qu'elle est mise en cause dans l'affaire des assistants du Parlement européen. Et la situation commence à devenir gênante pour Emmanuel Macron et Yael Gauss puisque c'est lui qui l'a choisi pour représenter la France à la Commission.
Quoi qu'il arrive, c'est une humiliation pour la France, tempête un haut responsable de la majorité. Dans l'entourage même de la présidente Ursula von der Leyen, tout le monde était convaincu que le rattrapage à l'écrit suffirait. C'était sans compter sur la détermination du PPE, la droite européenne. À la question écrite, est-ce que vous démissionnerez automatiquement en cas de mise en examen ? Sylvie Goulard répond non, car présomption d'innocence, pas de quoi faire baisser la température. Mais derrière ce bras de fer sur l'intégrité se joue une autre bataille. Le match retour contre Emmanuel Macron. Le PPE ne digère pas l'irruption d'une troisième force politique centrale et centriste, estime le député En Marche des Français du Benelux, Pierre-Alexandre Anglade.
Les équilibres qui préexistaient sont complètement remis en question et donc chacun essaye de prendre le leadership aujourd'hui en Europe. Ça dit aussi la bataille qui se joue entre les différentes institutions européennes, le Parlement, la démocratie directe qui cherche à s'imposer par rapport aux États membres et à affirmer son pouvoir par rapport aux autres.
Et à l'Élysée, on s'interroge, mais quel est le vrai problème ? Sylvie Goulard elle-même, ou bien la taille de son portefeuille, ou bien n'est-elle qu'un moyen pour déstabiliser la commission? Bloquer Goulard, prévient un conseiller, c'est aussi bloquer Macron, aujourd'hui leader politique en Europe, la crise serait majeure. Faut-il envisager un plan B? L'audition n'a pas eu lieu, la procédure est en cours, répond l'Élysée, il n'y a donc pas lieu d'en parler.
Et verdict attendu dans la journée. Pas de reconnaissance automatique de la filiation des enfants conçus par GPA. L'Assemblée nationale est revenue sur son vote de la semaine dernière en achevant l'examen du projet de loi bioéthique en première lecture. Il sera solennellement voté mardi. Des milliers de litres de lait jetés, des œufs cassés, des fruits et des légumes non récoltés. 15 jours après l'incendie de Lubrizol à Rouen, les organisations agricoles ont rendez-vous chez leur ministre Didier Guillaume pour faire un point sur la situation dans l'attente de nouvelles analyses et pour faire un point sur les indemnisations, notamment pour les producteurs laitiers, parce que pour l'instant, ce n'est pas l'État qui a payé pour eux, Adrien Taufollet.
La solidarité sera totale, répète à l'envi le ministre de l'Agriculture. Les éleveurs, par exemple, obligés de verser leur lait dans les fosses à lisier faute de collecte, n'ont pas d'inquiétude à avoir sur leur trésorerie. Il l'a encore affirmé ce mardi à l'Assemblée nationale.
Les choses sont réglées, les avances sont faites et aucun agriculteur, aucun éleveur ne sera sur le bord du chemin.
Seulement ces avances dont parle Didier Guillaume ne sont pas le fait du ministère, mais de l'interprofession. Le CNIEL, qui exceptionnellement a mis la main à la poche pour rassurer les producteurs, a prévu une enveloppe d'1 million d'euros pour compléter était la paye de septembre. Pour son président Thierry Roquefeuille, le soutien tant annoncé par le ministre se fait donc attendre.
À aucun moment le ministre nous a proposé de se substituer à l'interprofession pour faire cette avance. Donc si ça a enlevé une pine au pied du ministre, tant mieux. Mais pour moi, l'avance de trésorerie, aujourd'hui à ce stade, je ne sais absolument pas quelle est la réponse qu'il nous amène en termes d'indemnisation. Est-ce que c'est le gouvernement? Est-ce que c'est l'entreprise Lubrizol qui va indemniser? Moi, à ce jour, je ne sais pas quoi.
La position du ministre est la suivante. Peu importe les canaux par où arrive l'argent, à la fin, les pollueurs paieront la facture. Bref, pas de quoi satisfaire l'interprofession qui espère que des gages seront donnés lors de la réunion cet après-midi et que le gouvernement voit large en termes d'indemnisation pour payer le lait détruit, mais aussi le fourrage utilisé à cause du confinement des bêtes, sans oublier le reste de la filière dont les produits finis à base de lait sont confinés par mesure de précaution.
Et de nouvelles analyses seront faites dans le secteur de Préau au nord de Rouen, après qu'on y a relevé des taux de dioxine importants lors du passage du nuage de fumée la semaine dernière, des taux élevés, mais en dessous des seuils de toxicité, selon la ministre de la Santé.
Inter 8h12, une randonnée mortelle devant le tribunal correctionnel de Lyon aujourd'hui.
4 militaires sur le banc des prévenus, des officiers et sous-officiers du 2e régiment étranger de génie de Saint-Christol-d'Albion dans le Vaucluse. Il y a 4 ans, ils avaient emmené une cinquantaine de légionnaires en Maurienne. 6 d'entre eux sont morts dans une avalanche, d'autres ont été blessés, comme ce légionnaire ukrainien défendu par maître Jean-Michel Quillardet qui dénonce la négligence coupable de ces officiers.
Le dossier d'instruction est très clair à cet égard. Il y avait un risque d'avalanche. Les militaires qui ont décidé de cet exercice n'ont pas pris contact avec les services météo, les agents de la station de ski, etc., etc., pour au moins s'informer s'il y avait danger ou non. Ça, c'est la première chose qui n'a pas été faite. Et la deuxième chose, c'est que au fur et à mesure de la marche, il y a des témoignages. Ils voyaient bien que les légionnaires en bavaient, pour reprendre l'expression d'un témoin, ce que moi je vais plaider, si vous voulez, pour mon client qui est un blessé relativement léger mais qui a un gros préjudice moral, c'est que ce sont des légionnaires, beaucoup sont de nationalité d'autres pays et en fait on les mène un peu à l'abattoir en quelque sorte, c'est-à-dire que marche ou crève, c'est une conception du commandement militaire qui me paraît aujourd'hui au 21e siècle assez absurde et je pense que les officiers en question ont manqué d'humanité.
L'avocat Jean-Michel Quillardet au micro de Nathalie Grinspan de France Bleu Savoie. Il est un peu plus de 23h en Californie, 23h14 précisément, et les lampes torches sont de sortie. La compagnie d'électricité locale a coupé le courant dans 800 000 foyers du nord de l'État pour au moins 2 jours, parce que le temps est sec et que ces lignes sont vétustes. Quel rapport me direz-vous ? La réponse se trouve à Paradise, ravagé par un incendie l'an dernier, 86 morts précisément à cause du réseau électrique. La coupure, cette fois, et donc préventive, Éric de Salve.
Les habitants n'ont eu que 2 jours pour se préparer, faire leurs provisions, acheter nourriture, pile, essence et générateurs en prévision de cette gigantesque coupure électrique. Au total, 2,5 millions de Californiens sont affectés. Dès 4h du matin, mercredi, des dizaines de villes autour de San Francisco ont été plongées dans le noir et toute une économie perturbée. faute de courant. Des centaines de commerces, stations-service, écoles ont dû fermer, y compris la célèbre université de Berkeley. Tout cela au nom de la lutte anti-incendie, car cette coupure record est imposée en raison de conditions météo qualifiées d'extrêmes par les autorités. Températures élevées, vent fort, sol sec, la même recette climatique que l'an dernier quand en quelques heures le feu le plus meurtrier de l'histoire californienne rasait la petite ville de Paradise. Or, un an après, l'enquête des pompiers a désigné un coupable, une ligne électrique hors d'âge du fournisseur PG&E. La compagnie, plusieurs fois condamnée pour négligence, fait aujourd'hui face à des milliards de dollars d'indemnités et se dit incapable de rénover ses lignes. Pour éviter une nouvelle catastrophe, PG&E préfère donc couper le courant à ses clients californiens, et ce, jusqu'à ce que les vents faiblissent. San Francisco, Eric de Salve, RFI pour France Inter.
Et les conditions météo, il aurait peut-être fallu y penser avant d'organiser une Coupe du Monde de rugby au Japon en pleine saison des typhons. Voilà les organisateurs contraints d'annuler les matchs de samedi. Pas de Nouvelle-Zélande-Italie, pas d'Angleterre-France à Yokohama en prévision de l'arrivée du typhon Agibis. C'est la première fois que ça arrive en Coupe du Monde. La France et l'Angleterre, qui sont toutes les deux qualifiées pour les quarts de finale, obtiendront donc 2 points chacune sans avoir joué. La Fédération française de rugby recommande aux supporters qui ont fait le déplacement de suivre les consignes de sécurité de l'ambassade de France et s'associe sobrement mais pleinement à leur déception.
Merci Florence Paracuelos. La météo précisément.
La météo avec Région Job. Trouvez le job qui va vous faire aimer le lundi avec Région Job.
Et un début de journée assez chargé, Stéphanie Fromentin.
Notamment entre la Garonne et la Loire, jusqu'en Alsace et au Jura, en passant par la Picardie et le Nord-Pas-de-Calais. Dans cette zone, le risque de pluie, voire d'averse, est encore présent ce matin. Ailleurs, le ciel restera sec. Les éclaircies, d'abord timides, vont progressivement s'élargir, alors que le soleil est déjà bien généreux en bord de Méditerranée, où il faudra tout de même composer avec beaucoup de vent, soufflant par rafales de 80 km/h, voire 100 sur la Balagne et le Cap Corse. Cet après-midi, les nuages resteront nombreux et prédominants entre le Poitou-Charentes, la Vendée, le centre-Val de Loire et l'ouest du Massif central. Ils gagneront même la Bourgogne. Et puis le long des frontières nord, quelques averses résiduelles tarderont à s'évacuer. Le ciel des côtes de la Manche va se charger. Partout ailleurs, les éclaircies vont s'affirmer et le soleil grignoter du terrain.
La douceur est de rigueur.
Tout à fait. Les valeurs au réveil sont plutôt clémentes et homogènes sur une grande partie du pays. Avec 7 à 12 degrés, il fait déjà bon sur les plages varoises, 15-16 degrés, comme sur l'île de Beauté, 13 à 18. Cet après-midi, les valeurs sont encore un peu justes dans le Haut-Rhin avec 13 petits degrés, mais ailleurs, vous pourrez compter sur 17 à 19 degrés. Localement, 23 dans le sud-ouest et PACA. Il fera 25 degrés à Toulon, 18 à Paris, mais 15 à Épinal.